à voix nue. Ce soir encore, Maïlys Besseri rencontre Jacques Attali. Tout de suite, prévoir l'avenir, penser le temps.
Jacques Attali, bonsoir.
Bonsoir.
Alors depuis le début de cette série, nous tournons autour de cette question cruciale du temps et de votre rapport au temps. Votre collection de sabliers ici chez vous en témoigne. Et votre pensée s'exprime à travers, que ce soit à travers les essais, la fiction et les romans, exprime souvent la question des liens entre l'histoire, la mémoire et l'avenir. Donc avant de nous expliquer vos travaux, pourriez-vous nous décrire d'abord de manière très simple et pratique votre rapport au temps et la manière dont vous organisez votre temps, qui est aussi un rapport au monde?
D'abord, j'ai une technique très, très simple qui est matérielle, c'est que je fais imprimer tous les vendredis mon agenda des 3 mois qui viennent et je passe au moins une demi-heure chaque week-end à la noter. De façon à ce que mon assistante modifie ce qui me gêne. Et c'est une bataille permanente, parce que comme je suis assez libre de mon temps, beaucoup de gens demandent à me voir, j'ai des rendez-vous, j'ai des voyages, etc. Et puis il y a l'ONG que je préside et des tas d'autres choses, les concerts, tout ça. Donc je suis parfois très... J'ai un agenda qui devient comme celui de tout le monde, totalement fou si je ne le maîtrise pas. Donc j'impose des consignes très précises qui ne sont en général pas respectées, mais par exemple je veux au moins 4 demi-journées totalement libres par semaine.
C'est une liberté organisée.
Oui, ben, pour écrire. Je refuse tous les dîners, jamais de dîner. C'est pour ça que je reçois beaucoup chez moi, c'est parce que très égoïstement je préfère que mes amis viennent me voir plutôt que d'aller passer du temps dans un dîner. Mais cette contrainte de regarder toutes les semaines l'agenda des 3 mois qui viennent est extrêmement salvatrice, parce que ça permet de vraiment voir comment libérer du temps et comment faire ce que l'essentiel, quoi.
Il y a une organisation, le temps dédié à l'écriture, c'est un temps matinal plutôt.
D'abord, je peux pas écrire plus de 3 heures par jour. C'est pour moi le minimum et le maximum. J'écris extrêmement vite. Plusieurs livres à la fois, et un livre c'est 70 à 80 versions. Les premières sont les plus longues à faire, puis après, vous voyez, par exemple, hier j'ai passé pas tout à fait la journée, mais une bonne partie de la journée à travailler sur mon prochain livre, en dehors du programme présidentiel, qui est un essai sur la relation entre la pensée juive et la pensée grecque, et je l'ai entièrement écrit dans la journée, réécrit dans la journée, plutôt annoté, corrigé, etc. Donc, quand j'arrive à me concentrer, ça va très vite. Donc c'est une des 50 versions, il y en aura encore une vingtaine avant qu'il soit fini. Donc j'écris 3 heures par jour, et quand c'est un roman, il faut vraiment que j'écrive 7 jours sur 7. Un essai, moins, mais un roman, on peut pas, si on n'écrit pas 7 jours sur 7, les personnages vous échappent. Donc, j'ai cette discipline-là. Quand j'ai un concert qui se prépare, et il y en a de plus en plus en tant que chef d'orchestre, il y en a de plus en plus. Là, il y en a déjà 4 qui sont dans la boîte pour cette année. J'en ai fait 12 l'année dernière avec 12 orchestres différents, 12 pays, 12 villes différentes. Et il y avait 11 programmes différents, parce que je n'ai fait le même que 2 fois. C'est du travail, surtout pour quelqu'un comme moi qui n'est pas doué du tout. Ça aussi, c'est une contrainte, ça prend du temps. Je fais 1 heure de sport par jour, ça prend du temps aussi.
Donc la maîtrise du temps, est-ce que cette question du temps et de la prévision, puisque votre rapport au temps, c'est plus un rapport passé-futur qu'un rapport au présent?
Vous savez, je suis resté très... D'abord, la pensée juive, comme beaucoup de pensées, dit beaucoup de choses sur le temps, et il y a une pensée talmudique qui m'a toujours été très proche, une discussion entre les rabbins sur qu'est-ce que c'est qu'être juif, qu'on peut traduire par « qu'est-ce que c'est qu'être un homme ?» Mais elle est dite « qu'est-ce que c'est qu'être juif ?» Alors il y a des rabbins qui disent « être juif, c'est avoir une mère juive. » Tout le monde sait ça. D'autres rabbins qui disent « absolument pas. Cette histoire de mère juive, c'est une invention des Polonais parce que ils voulaient éviter que les filles qui ont été violées par des soldats russes avortent. » Ce qui est vrai d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on a dit que les enfants étaient issus de la mère, parce que comme ça, les filles étaient obligées de ne pas avorter. C'est le père, c'est lui qui enseigne, c'est lui qui... Et puis le troisième rabbin dit, vous avez rien compris, on n'est pas juif par son père ou par sa mère, on est juif par ses enfants. Si vos enfants le sont, vous l'êtes. Autrement dit, on est un homme digne de ce nom que si on a créé les conditions pour que ses enfants aient les moyens de l'être. Et ça, c'est quelque chose qui m'est très proche. Je pense que le passé ne se justifie que par l'avenir. Et mon obsession a toujours été de créer les conditions pour que l'avenir soit meilleur que le passé. Parce qu'en hébreu, on appelle ça le tikkun olam, la réparation du monde. Ce qui est à la fois une formidable grille de lecture de l'action, un critère de décision. Je décide des choses en fonction de l'intérêt pour les générations suivantes. Ce qui est d'ailleurs une attitude féminine, plus exactement maternelle. Les femmes, plus que les hommes, décident de leur vie en fonction de l'intérêt de leurs enfants. Et je pense que tous les gens du monde sont nos enfants, et qu'on voit plus encore ceux qui ne sont pas encore nés. Cet enfant dans les rues de Téhéran, c'est comme mon fils. Et c'est à lui que je pense tout le temps. Quel que soit le sort qu'il a eu. Et donc, nous devons agir en fonction de cette... Avec aussi une dimension égoïste en disant ça. Puisque si je m'occupe que des générations suivantes, c'est à la fois une façon de croiser les doigts et de penser que je serai peut-être là quand ils seront là. Et aussi d'espérer qu'ils se souviennent de moi, puisque je crée les conditions d'agir en fonction de ça.
Mais c'est une trace, c'est la question de la trace.
C'est la question de la trace. Alors on peut avoir une souhait d'une trace mauvaise. Hein, je pense que ceux qui ont fait les attentats du 11 septembre pensaient à laisser une trace aussi. De même, moi j'ai toujours eu cette obsession de la trace, d'où l'écriture des livres, d'où le fait que mes livres parlent de ça. Un de mes livres que je préfère dans les essais, c'est un livre qui s'appelle « Au propre et au figuré ». Je me suis souvent trompé dans les titres des livres, même si je les aime beaucoup, parce que ce sont des beaux titres, mais qui ne disent pas le contenu. « Au propre et au figuré », c'est simplement une histoire de la propriété. Et je me suis rendu compte qu'en écrivant une histoire de la propriété, du passé jusqu'à l'avenir, ou d'ailleurs à cette occasion j'ai... dans ce livre, inventer le mot d'objet nomade et décrit ce qu'allait être Airbnb, etc. Donc, il y a 30 ans maintenant. Je parlais que de la mort, parce que la propriété, c'est un rapport à la mort et à la volonté de lutter contre la mort en ayant des choses qui durent plus longtemps que vous, y compris vous-même, si vous êtes capable de transformer votre corps en objet. Donc, ce rapport au temps, pour moi, c'est toujours un rapport avec le temps qui vient, d'où ma passion pour la science-fiction, la littérature de science-fiction que j'ai découvert très jeune et que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu et beaucoup de livres m'ont beaucoup marqué. Hein. Robert Heinlein, Bradbury, évidemment Philip K. Dick, enfin les grands, mais aussi des gens moins connus, un roman comme Limbo, d'autres m'ont beaucoup marqué. Et évidemment Anatole France qui est aussi un grand écrivain de science-fiction, Huxley, enfin beaucoup, moi, on pourrait en parler pendant des heures. Donc la science-fiction m'a toujours énormément marqué et au fond l'homme d'influence, le premier homme d'influence c'est le prophète, qui est d'ailleurs un conseiller du prince et qui est exactement en toute proportion gardé dans la même posture que le conseiller puisqu'il est soit il dit, si vous me suivez, le monde va être magnifique, c'est Ézéchiel. Ou, si vous me suivez pas, ça va être un désastre, ça c'est Jérémie. Et puis il y a une troisième catégorie qui est souvent dans les deux, qui est de dire, écoutez, j'en ai marre que vous fassiez rien, je m'en occupe moi-même. Bon.
Et dont on ne sait s'il est visionnaire ou si c'est le fait d'avoir amené les gens auprès de lui voilà. Qui va entraîner l'avenir.
Exactement. Je pense qu'il faut être les deux, les trois. Il faut à la fois être celui qui dit voilà le monde qui vient. Il faut aussi dire voilà ce qui va se passer. Ce qui fait que souvent on accuse les intellectuels, c'est des prophètes aux petits pieds. Nous sommes des prophètes sans inspiration divine. C'est pour ça que je dis aux petits pieds, parce qu'on n'a pas d'inspiration divine. On a une inspiration, une intuition qui vient de quelque part, mais pas au niveau des prophètes.
Jacques Attali, vous, la question du temps et la question surtout de la prévision, c'est quelque chose que vous avez étudié de manière précise. Vous avez repris dans l'histoire tous les personnages qui prédisaient, prévoyaient l'avenir avec une étude précise.
J'ai fait ça après. J'ai commencé par prévoir. Disons que mon premier travail sur la prévision, c'est justement les émissions que m'avait demandé Louis Dandrel, président, directeur général de France Musique, les émissions sur l'avenir de la musique. Et là, j'ai compris...
Au milieu des années 70.
C'est là où j'ai compris qu'on ne peut pas comprendre l'avenir de la musique sans comprendre son passé, et que la musique elle-même était prémonitoire. Et c'est là où j'ai commencé à me rendre compte. Et pourquoi la musique est prémonitoire? Parce que la musique explore le champ des possibles plus vite que que le monde matériel, parce que la musique va plus vite puisqu'elle est immatérielle. Il y a deux domaines qui vont plus vite que les autres parce qu'ils sont immatériels, c'est la musique et la finance. Il y a des rapports très profonds dans leurs évolutions respectives. Et là, j'ai commencé à me rendre compte qu'il faut chercher les invariants, et que les invariants, si on les déroule en cherchant les évolutions à l'intérieur de la dynamique, les invariants permettent de comprendre où va l'avenir. Et à partir de là, je l'ai déroulé dans différentes dimensions, le passé, les invariants, l'avenir. J'ai écrit une histoire du temps, une histoire de la propriété.
C'est une intuition qui s'est organisée autour de certains paramètres.
Exactement. Et puis, j'ai écrit une histoire de la prévision de la France, qui était la prévision de l'avenir de la France en 79 aussi, qui s'appelait La Nouvelle Économie Française. J'ai écrit beaucoup de livres de prévision du temps, de la propriété, de la musique, de la santé, des nations, etc. Et puis, j'en ai fait la synthèse dans Une brève histoire de l'avenir. Puis, j'ai continué à faire d'autres livres. Et puis après, en effet, je me suis dit... ce serait bien de dévoiler mes méthodes de prévision, et comme toujours, quand j'essaie de dévoiler quelque chose de moi, j'essaie de l'inscrire dans un socle. J'écris une histoire de la modernité aussi, comment le concept de modernité évolue. Et donc, en effet, j'ai essayé de bien comprendre toutes les techniques de prévision qui, à mon avis, ont toutes du sens, même les plus
farfelues. Donc, c'est la pitié.
Ce sont les formes d'astrologie.
L'astrologie écartementienne.
Écartementienne, qui ont tout du sens. C'est pas du tout. Je ne crois pas que quelque chose peut durer pendant 2000 ans sans avoir une raison d'être, au sens. C'est d'ailleurs le mot raison d'être, qui existe aussi en anglais sous forme en français, est un mot très fort. C'est vrai que. J'aime bien l'expression des raisons d'être, qui est à la fois des raisons au pluriel ou la déraison d'être. Parce que c'est assez déraisonnable que d'être.
Les années 70, il y a ce livre « L'ordre cannibale » avec des images qu'on vous ressort régulièrement, Jacques Attali, dans lesquelles vous parlez du téléphone portatif, vous utilisez cette expression, des prothèses. Oui. Vous prévoyez un certain nombre d'objets qui sont maintenant notre quotidien.
Absolument.
Et vous parlez de l'adresse qui... Nous aurions tous une adresse qui, en réalité, parle peut-être même plus du smartphone téléphone portable.
J'ai dit qu'on aurait une adresse qui ne serait plus...
Qui serait notre identité, nomade.
Identité qui ne serait plus une adresse physique. Il y avait un autre livre, d'ailleurs, à cette époque, qui était mon cours à Dauphine, qui est un livre austère, mais qui est un livre très important pour moi, qui s'appelle « Les trois mondes », où je prends les trois façons de penser la société, la façon libérale, la façon marxienne, et celle qu'impliquent les sciences biologiques, 1979-80, et où je prévois le basculement du monde sur le Pacifique comme une évidence et beaucoup d'autres évolutions. Je me suis trompé sur un point parce que je pensais à cette époque que le Japon allait succéder aux États-Unis comme superpuissance. Et après, j'ai compris pourquoi je m'étais trompé. Et donc, je crois que toutes les techniques de prévision... D'abord, prévoir, c'est fondamental pour vivre. On a besoin de prévoir la pluie pour les paysans, pour ceux qui marchent dans le désert, dans l'histoire du nomadisme, j'ai aussi prévu penser à ça. Le fait de ne pas prévoir, qui est aujourd'hui une attitude dominante, ça tient à la volonté de se cacher la mort, de ne pas penser à la mort. C'est en cela, d'ailleurs, que Blaise Pascal est si central, puisque Blaise Pascal, c'est à la fois celui qui pense à la distraction comme stratégie face à la mort, c'est celui qui pense à... qui invente, avec d'autres, mais en premier rang, le calcul des probabilités, qui est une des techniques modernes majeures de prévision. Et c'est celui qui réfléchit sur la prédiction et la liberté humaine quand il travaille sur la place de la grâce et de la liberté en tant que janséniste face aux jésuites. Donc il est au cœur, d'ailleurs c'est normal au XVIIe siècle, de la naissance de l'homme moderne, l'homme libre qui se dégage de la gangue, de la fatalité, du fatalisme que les sociétés antérieures imposaient aux hommes. Donc, mais aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés où on a... Alors, je suis peut-être... Je ne sais pas si je suis en avance ou un petit en retard, parce que j'essaye de prévoir loin. Mais tout dans les sociétés nous pousse à ne pas le faire. Nous sommes dans des sociétés où de plus en plus... tout change à toute vitesse. L'apologie de la liberté individuelle. La liberté individuelle, c'est l'obligation, le droit, sinon l'obligation de changer tout le temps d'avis, qui pousse à la précarité des choix, qui pousse même à la déloyauté, puisque les choix deviennent réversibles. Et nous sommes dans des sociétés de précarité générale et de déloyauté générale. C'est pour ça que, concrètement, le CDD s'impose face au CDI. C'est pour ça que les relations sentimentales sont de plus en plus brèves. C'est pour ça qu'on s'intéresse. On a de moins en moins de contrats à l'égard du passé et de moins en moins de contrats à l'égard de l'avenir. On est dans l'instant. Et ce qui se traduit d'ailleurs très concrètement par la réduction du temps d'attention. Aujourd'hui, on estime que le temps d'attention est de 10 minutes. Et même récemment, j'ai vu que chez Microsoft, on pense que le temps d'attention va descendre à 10 secondes. Et que si on n'est pas capable de dire quelque chose en 10 secondes, ben, on ne sera pas entendu. Donc, je parlais l'autre jour avec un très grand un ami qui est un des plus grands professeurs de neurosciences. Et je lui disais, mais est-ce que tu as fait des progrès, un Américain qui parle français, est-ce que tu as fait des progrès dans la connaissance des processus du cerveau qui permettent d'apprendre, puisque pour moi, l'avenir, c'est de voir en matière d'éducation la même évolution qu'en matière de médecine, c'est-à-dire d'avoir des prothèses qui permettent d'apprendre mieux, parce que une des grandes difficultés de l'espèce humaine aujourd'hui, c'est que sa capacité d'apprendre est limitée par la taille du cerveau, qui lui-même est limité par les conditions de la naissance, ça c'est un autre sujet, qui à mon avis va pousser à la matrice, à l'utérus artificiel.
À faire augmenter les potentialités du cerveau humain dès sa naissance.
Dès sa naissance. Mais il me répondait, non, je dis n'importe quoi, c'est pas le sujet, on n'en est pas là aujourd'hui. Moi, mon principal sujet, c'est comment passer 10 minutes à 15 minutes d'attention pour les enfants dans les écoles américaines. Et donc, moi je suis plutôt dans les tendances longues, positive, alors qu'on est au contraire dans une dictature de l'instant qui s'installe et qui fait que j'avais écrit un article qui avait beaucoup fâché un de mes amis qui est toujours Nicolas Sarkozy et qui est toujours un ami, en tout cas moi, mais même si lui est un peu fâché pour cet article, où j'avais écrit juste au moment de l'élection présidentielle qu'il avait fait des choses bien, puis il avait passé son temps à les défaire et qu'il était comme quelqu'un qui marche à reculons dans le sable en effaçant ses propres traces. Ça l'avait beaucoup fâché. Mais je crois que c'est une image qui s'applique à l'humanité. Nous sommes en train de marcher à reculons, on ne regarde pas devant, en effaçant nos traces, en ne s'occupant pas du passé et en ne s'occupant pas de l'avenir. Et ça, évidemment, c'est mortel.
De vos romans jusqu'à Verbatim, qui est une manière aussi de consigner un temps présent, mais en créant une sorte de présent dans le passé, en tout cas en décalant le rapport au temps. Et aussi dans la manière de voir justement la musique, il y a cette volonté, jusqu'à peut-on prévoir l'avenir, d'organiser justement cette pensée qui est peut-être l'aspect le plus original de votre pensée, qui est cette manière de faire, Jacques Attali, et dont vous avez voulu récemment livrer la méthode.
Oui, et peut-être permettez-moi de vous dire, pour que ces émissions ne paraissent pas, ne soient pas purement apologétiques, de revenir sur deux critiques qu'on m'a fait qui sont importantes et sur lesquelles je voudrais m'expliquer. La première, on m'a reproché d'avoir dit qu'il fallait suicider après 65 ans parce que la vie ne valait pas la peine d'être vécue. Et la deuxième...
C'est la question de l'euthanasie.
La question de l'euthanasie. Et la deuxième, on m'a reproché d'avoir écrit Verbatim contre François Mitterrand et sans son accord. La première question est intéressante parce que, en réalité, j'ai écrit que dans une société capitaliste telle que je la condamne, il y avait le risque de voir l'euthanasie devenir nécessaire pour des raisons économiques, ce qu'on voit d'ailleurs déjà maintenant apparaître en Angleterre et dans d'autres pays, où on donne plus des médicaments à des gens en fonction de leur espérance de vie. Si leur espérance de vie est trop brève par rapport au coût du médicament, on le donne plus. C'est exactement ce que j'avais décrit. Mais je l'avais décrit comme quelque chose que je refuse. Et on a transformé quelque chose que je refusais comme un souhait. Par exemple, j'avais aussi écrit il y a quelque temps, si la Banque Centrale Européenne n'agit pas avant Noël, l'euro disparaîtra, et on me ressort, vous voyez, vous aviez prévu en 2011 que l'euro allait disparaître. On oublie que j'avais dit, si la Banque Centrale n'intervient pas, et elle est intervenue le 23 décembre, donc juste avant la limite de temps que j'avais fixée. Donc, il y a le danger de caricature. Et sur Verbatim, je n'aurais jamais écrit ce livre sans la demande de François Mitterrand. D'ailleurs, dans un interview, il a ensuite, un peu tard à mon avis, mais il l'a reconnu en détail, il a expliqué. Voilà, il a reconnu en détail qu'il me l'avait demandé, qu'il avait surveillé, qu'il aurait eu du mal à ne pas le faire, puisque je possède les épreuves de ces livres annotées de sa main et de sa plume, pour bien voir que c'était avec son accord et même sa relecture que ces livres sont parus. Enfin, j'étais un peu vexé qu'il ne le dise pas tout de suite. Mais c'est vrai qu'en effet, j'ai essayé d'organiser ma pensée. J'ai écrit 3 livres qui m'ont permis de dégager les principes survivre aux crises, pour comment on réagit aux crises, devenir soi, sur comment on devient soi, comment on trouve ce à quoi on est fait, et prévoir l'avenir, qui est quels sont les principes à appliquer pour essayer de prévoir son avenir. Ce sont très simples, les techniques pour prévoir son avenir. C'est premièrement chercher ses invariants. Qu'est-ce qui en soi est invariant? Qu'est-ce qui ne va pas changer quoi qu'il vous arrive? Le deuxième, c'est quel projet vous avez dans l'avenir. Le troisième, c'est quels sont les événements invariants qui vont arriver quoi qu'il se passe. Le quatrième, c'est comment vont se comporter vos ennemis et vos amis face à vous. Et le cinquième, c'est est-ce que vous faites tout ce qu'il faut pour être encore vivant dans 20 ans, tant en termes physiques qu'en termes mentaux. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait cette checklist, qu'on a répondu à ces questions, alors je conseille d'écrire soi-même sur une feuille de papier le roman du temps qui vient. Si on a essayé de prévoir sur une semaine, on écrit sa semaine. Si on est un peu plus courageux, on va plus loin. Et au début, c'est assez difficile. Une fois qu'on a fait cette checklist, qui est assez modeste, les invariants, le projet, le calendrier, les ennemis, les amis, et puis ce qu'on fait pour être encore là au moment de l'avènement du projet, on peut l'écrire de plus en plus facilement si on fait l'exercice. On peut même le faire pour les autres, je pourrais le faire pour vous, ou pour une entreprise, ou pour une nation, et ça marche. Ça donne des choses assez utiles pour éclairer la route.
Cette posture, justement, vis-à-vis de l'avenir, elle vous voit un certain nombre de critiques, Jacques Attali, comme quelque chose d'un peu mystique, d'un rapport un peu magique au temps. Et elle vous voit aussi un certain nombre de demandes de conseils, même en catimini, même parents du public. Vous avez l'oreille d'un certain nombre d'hommes influents à l'étranger aussi. Qu'est-ce que vous pouvez déceler de ce rapport au monde que
d'abord,
ça crée?
Il n'y a rien d'occulte. Hein. Il se trouve qu'il y a des gens qui me demandent mon avis et qui ne souhaitent pas que ça se sache. Moi, je n'ai rien à cacher, mais je respecte le secret des autres. Je pense que pour tout homme de pouvoir, essayer d'éclairer la route de l'avenir, c'est très important. Et c'est très difficile de le faire seul, d'abord. Et c'est très difficile de le faire avec des gens qui ont un intérêt particulier. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec François Mitterrand, ça se passait bien, parce que comme je ne souhaitais pas être ministre, et que j'étais le seul dans son entourage, vraiment le seul, je veux dire explicitement le seul, à ne pas considérer ma présence à l'Élysée comme un marchepied pour faire autre chose, mon avis était désintéressé. Je pouvais lui dire, par exemple, je lui ai dit, je ne vous conseille pas de vous représenter en 88, parce que j'avais aucun intérêt particulier à quoi que ce soit, tandis que ceux qui avaient un intérêt à obtenir de lui quelque chose étaient en situation différente. Donc, un homme de pouvoir peut avoir intérêt à demander l'avis de quelqu'un qui n'a pas de conflit d'intérêt entre l'avis qu'il donne et son propre intérêt personnel. Mais évidemment, être porteur de mauvaises nouvelles, c'est pas génial. C'est pour ça que j'admire infiniment et je plains mes amis médecins qui sont en première ligne de la bataille et qui sont ceux qui sont, je parle souvent beaucoup avec eux, qui sont en première ligne dans l'annonce des nouvelles de santé. Être celui qui, tous les jours, au moins une fois dans la journée, a annoncé à quelqu'un que la bataille est perdue, ça doit être terrible.
Et Jacques Attali, est-ce que la prévision, justement, qui permet aussi une sorte de recul absolu vis-à-vis de l'humanité et de tout ce qu'elle peut produire, que ce soit d'idées, d'art, il y a eu cette exposition au Louvre sur une brève histoire de l'avenir, oui, qui était une manière de faire dialoguer l'histoire de l'art, mais aussi l'histoire des grandes crises humaines, avec justement ce recul-là. Est-ce que c'est pas justement la direction qu'a souhaité prendre votre pensée pour être la plus originale?
Je ne cherche pas à être original pour être original, mais je cherche à être le plus exact possible. Et je pense en effet que les artistes... Disons qu'on peut parler du monde avec plusieurs langues. On peut parler du monde avec le langage de la raison. C'est ce qu'un intellectuel fait le plus naturellement possible. On peut parler du monde avec le langage de la foi. Et c'est intéressant. On peut parler le monde avec le langage de l'art. Et on peut parler du monde avec le langage de la mystique, qui n'est pas la même chose que la foi. La foi, c'est croire en Dieu et c'est s'inscrire dans une relation avec lui. Le langage de la mystique, c'est tout ce qui appelle à la transcendance sous forme de méditation, de pleine conscience, de lucidité. Enfin, c'est une technique très particulière d'éveil des différentes formes d'accès au monde. Tout ça est... Moi, j'ai l'impression que le monde... Je vois le monde comme une citadelle endormie avec toutes les portes fermées et qui est menacée par une catastrophe. Et il y a les portes... Chaque porte, c'est une de ses voies. Il y a la porte de la raison, la porte de la beauté, la porte de la science, la porte de la musique, la porte de la peinture, la porte de la littérature, la porte de... Et j'essaye de frapper à toutes les portes pour faire ouvrir les consciences.
Pour revenir sur la question des traces et de ce que peut changer l'homme à une sorte d'avenir du monde, il y a cet objet particulier dont j'aimerais que vous nous fassiez le récit, l'objet d'art qui se trouvait dans cette exposition du Louvre, avec les pieds de Rodin, justement, qui ont été retrouvés au moment du 11 septembre. Jacques Attali, est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ?
Il y avait au 40-quelquième étage d'une des tours les bureaux du plus grand acteur de la finance mondiale de l'époque, M. Cantor, qui avait sa firme là. Et il collectionnait les Rodins. Et donc il avait un Rodin qui s'appelait L'ombre ou la chute des géants. Et quand la tour est tombée, tous les gens qui travaillaient chez Cantor sont morts, et on a retrouvé dans les ruines le pied du géant.
Le pied désormais exposé avec les cendres,
voilà,
du 11 septembre.
Ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le maître mot de ce que nous sommes, c'est fragilité. À chaque seconde, notre vie peut s'arrêter. Mais en même temps, il faut l'inscrire dans la durée.
La question de la trace, des pieds du géant, mais aussi juste de la poussière de la cendre.
Oui. Pourquoi l'image du sablier me paraît très bonne ? C'est que le sablier, c'est à la fois chaque grain de sable qu'il faut vivre intensément, qui peut être le dernier, parce que nous, notre vie, c'est comme un sablier, mais on ne voit pas l'ampoule supérieure.
On ne sait pas ce qui reste.
On ne sait pas ce qui reste. Et on ne peut pas l'arrêter ni le retourner. La fragilité. La fragilité qui doit nous entraîner au défi, à l'ironie, à l'impertinence, au sourire. Voilà. Aujourd'hui, de plus en plus, je pense qu'une attitude majeure dans la vie, que je n'ai jamais pensé vraiment autant qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, ça me vient beaucoup, j'ai même envie d'écrire dessus, c'est le sourire. Je crois que sourire, même faire l'effort de sourire mentalement sans sourire physiquement, c'est un exercice très intéressant. Même si on dit que sourire physiquement augmente l'espérance de vie, ce qui n'est pas... qui a un effet secondaire... qui n'est pas anecdotique. je crois que le sourire, c'est-à-dire le fait de prendre les choses du bon côté, de les regarder avec ironie, avec tendresse, est une attitude, avec indulgence aussi, parce qu'il n'y a pas de sourire sans indulgence, me paraît une bonne attitude. Le sourire n'empêche pas la révolte.
De cette rencontre de Maïlys Bessery avec Jacques Attali. À voix nue, attachée d'émission Claire Poinsignon, prise de son Georges Thau, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se télécharge sur franceculture.fr. Et dès lundi, une nouvelle rencontre.